Cette théorie peut littéralement bouleverser notre compréhension de l'univers. Il s'agit là de la théorie des cordes. Depuis les premiers jours de l'homme sur Terre, un spectacle nous a toujours fascinés, nous invitant à regarder en haut, à rêver, à chercher des réponses. Des réponses qui répondent à nos questions existentielles. Mais malgré tout, on est très loin d'avoir tout compris de notre univers. Même si nous sommes parvenus à théoriser son commencement avec la théorie du Big Bang, on bloque quand même quelque part. Qu'est-ce qui a déclenché ce Big Bang ? Est-ce qu'il y avait réellement rien avant ? Pourquoi en fait est-ce qu'on a tant de mal à répondre à ces questions ? Quand on regarde le ciel depuis la Terre, on est loin d'imaginer l'immensité de l'univers. Composé de milliards d'objets célestes. Étoiles, galaxies, planètes, nébuleuses, trous noirs. Tous dispersés sur la toile de l'espace-temps, à perte de vue. Pour vous expliquer ce qu'est la théorie des cordes, faut bien commencer quelque part. Et j'ai choisi de commencer là. Aux premiers instants de l'univers. Remontons alors le temps de 13,7 milliards d'années. Avant que la Terre ne se crée. Avant que le Soleil ne se forme. Avant la mort et la naissance de milliards d'étoiles dans l'univers. Avant la formation des premières galaxies. Avant que la première lumière de notre univers soit émise. Avant la formation des atomes. Avant que les premières particules se lient entre elles. Avant que l'inflation cosmique ait lieu. À ce moment-là, c'est l'instant zéro. Mais nous sommes arrivés à un moment dans l'univers qui est trop tôt. Il est trop petit, trop jeune, trop chaud pour qu'il puisse être compris. Sa petitesse et sa masse extrêmement élevée nous empêchent de le décrire. Vous serez peut-être d'accord avec moi, la plupart du temps, plus un objet est petit, plus il est léger. Et bien là, c'est l'inverse, puisqu'on arrive à quelque chose de très petit, mais d'extrêmement massif. Donc, quand on tente de retranscrire mathématiquement ce moment, on arrive à des résultats qui n'ont plus aucun sens, où toutes les quantités mathématiques divergent. Tout se chamboule et rien n'est cohérent. C'est ce problème que va résoudre la théorie des cordes, mais on y reviendra tout à l'heure. La période qu'on ne comprend pas correspond à l'ère de Planck. Il s'agit de la période comprise entre l'instant 0, donc le tout début de notre univers, et 10 puissance moins 43 secondes après cet instant 0. Pendant cette fraction de nanoseconde, il s'est sûrement produit quelque chose d'incroyable et d'extrêmement important qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Mais impossible de savoir quoi. Mais alors, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi on ne parvient pas à comprendre ce qu'il s'est passé pendant cette période ? À ce moment-là, la physique et les mathématiques ne sont plus en mesure de décrire l'univers à cet instant. Pourtant, elles ont bien réussi à raconter toute l'histoire de l'univers et à le comprendre. Mais sauf que tout semble bloqué en ce point-là. Pourquoi ? À cette période de l'univers, tout était lié comme dans une soupe cosmique bouillante. On dénombre quatre forces fondamentales dans la vie tous les jours et dans notre univers. La première, c'est la gravitation, la plus faible des quatre forces. Celle qui fait qu'on peut rester sur Terre puisque notre planète nous attire. C'est pour ça qu'on tourne autour du Soleil ou même que le Soleil tourne autour du centre galactique. La deuxième force, c'est l'électromagnétisme. C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'électricité et au magnétisme. C'est cette force qui fait que nos micro-ondes chauffent nos aliments, que les ampoules de ton salon illuminent ta pièce, que tous tes appareils électriques fonctionnent ou que les boussoles indiquent le nord. La troisième force, qui est un peu moins connue mais pourtant la plus forte, c'est l'interaction forte. Cette force, elle existe dans le monde du très petit. Quand on zoome beaucoup sur un objet, on va commencer par voir les molécules qu'il compose. En zoomant encore plus sur l'une de ces molécules, on va voir qu'elle est composée d'atomes. Au centre d'un atome, on va avoir des protons et des neutrons qui forment le noyau. Puis on va avoir des électrons qui forment comme un nuage autour de ce noyau. Mais étrangement, les protons et les neutrons du noyau atomique sont extrêmement collés. Et s'ils le sont, c'est grâce à l'interaction forte. Elle agit en fait comme une sorte de glue qui va coller les protons et les neutrons entre eux, pour former le noyau atomique. Et si on parvient artificiellement à libérer cette interaction forte en brisant l'emprise de la glue, alors, boum. ça crée la bombe atomique qu'on a connue le 6 et le 9 août 1945. Enfin, la dernière force, c'est l'interaction faible. C'est à elle qu'on doit la radioactivité, donc le fait qu'un noyau atomique puisse se désintégrer et se convertir en un autre type de noyau. Alors voilà, avant les 10 puissance moins 43 secondes qui ont suivi cet instant zéro, toutes ces forces étaient réunies en un même point pour former une seule et unique force au milieu d'une soupe d'énergie et de forces cosmiques. Gravitation, électromagnétisme, interaction faible et interaction forte. Vous allez sûrement me dire, oui, et alors ? Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi même en sachant ça, on ne parvient pas à comprendre cette période ? Et bien en fait, c'est de là dont vient tout le problème. À l'heure actuelle, on peut décrire notre univers par deux piliers fondamentaux que je vais développer juste après. Mais ces deux piliers-là sont incompatibles. L'univers ne peut pas être décrit par ces deux théories fondamentales en même temps. Ça serait comme avoir deux codes de la route qui sont contradictoires. Dans l'un de ces codes, le feu vert permet aux voitures de passer, et dans l'autre, c'est l'inverse. Ça mènerait à des accidents, des embouteillages, enfin, il n'y aurait plus aucun sens. Et bah là, c'est pareil, on peut pas comprendre cet instant parce qu'il faudrait le décrire par ces deux théories en même temps. Sauf qu'elles sont incompatibles. C'est pour ça qu'on va dire que l'instant zéro est représentatif de la singularité initiale. Un point qui ne peut être défini mathématiquement. Un endroit où les mathématiques et la physique s'effondrent. Un endroit où plus rien n'a de sens, où plus rien n'est cohérent. C'est pour cette raison que depuis moins d'un demi-siècle, on a pensé à la théorie des cordes. C'est une théorie révolutionnaire qu'on a mis au point dans les années 1960. Elle permet en fait de lier ces deux piliers fondamentaux et de décrire notre univers que d'une seule manière. On peut alors comprendre une très grande partie des phénomènes pour leur inexpliquer avec cette théorie, où plus rien n'est faux. C'est maintenant qu'on va parler de la théorie des cordes. Comment on en est venu à cette théorie ? D'abord, faut comprendre quels sont ces deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est la théorie de la relativité générale. Concrètement, en 1687, Newton publie sa loi de la gravitation universelle. Il décrit la gravitation comme une force qui explique que la Terre est attirée par le Soleil et qu'elle tourne autour de lui. Mais jusqu'alors, pendant tout ce temps, on ne savait pas comment cette force gravitationnelle agissait réellement et on ne connaissait pas sa véritable nature. Alors en 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale. Et elle va complètement bouleverser notre compréhension de l'univers. Pour la première fois, on sait comment agit la gravité. Einstein ne va pas juste dire que la gravité est une force, il va faire mieux que ça. Plus globalement, il va dire que tout notre univers se situe dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Un espace-temps avec donc 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Alors ce principe d'espace-temps peut être assez complexe, mais en réalité c'est très simple. Les dimensions d'espace, on les voit dans la vie de tous les jours. Typiquement, c'est ce qui fait que tu vois la vie en 3D et non en 2D comme à la télé par exemple. Les trois dimensions d'espace, c'est la hauteur, haut, bas, la largeur, gauche-droite, et la profondeur, avant, arrière. Mais à ces dimensions-là, on va ajouter la dimension de temps, de telle sorte à ce que l'espace devienne dynamique. C'est l'espace-temps. Si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet un jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, la relativité générale va nous permettre de comprendre l'univers dans son ensemble, mais aussi de comprendre comment la force gravitationnelle agit sur n'importe quel objet. Mais en parallèle de cette découverte majeure, il régnait encore des mystères. Ces mystères se trouvaient dans le monde des molécules et des atomes. Ainsi, dans les années 1920, deux jeunes physiciens, Heisenberg et Schrödinger, s'intéressent au comportement des électrons dans les atomes. Et de par les découvertes qu'ils faisaient, ils jettent les bases de ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et c'est vers les années 1950 qu'on commence réellement à s'intéresser aux forces. À cette époque, on connaissait donc déjà la force gravitationnelle et la force électromagnétique. Mais c'est en étudiant les atomes qu'on découvre deux autres forces. L'interaction forte, puis enfin, l'interaction faible. On va même aussi découvrir que la force électromagnétique joue un rôle dans l'infiniment petit, et on va même la lier à l'interaction faible, mais ça c'est autre chose. Finalement, les bases de la mécanique quantique sont déjà bien solides. À tel point qu'on crée le modèle standard de la physique des particules. Le modèle standard, c'est une théorie qui se base sur une très grande équation dans le but de décrire notre univers en entier. Pour ça, il regroupe toutes les particules existantes et trois des forces fondamentales. Donc en gros, dans cette théorie, il y a les particules de matière, donc les fermions, donc tout ce qui est quark, électrons, etc. Et de l'autre côté, toutes les particules qui représentent les forces. On les appelle les bosons, et il y a par exemple la particule du photon, qui est la particule de lumière, qui représente l'interaction électromagnétique. La théorie du modèle standard va donc affirmer qu'au tout début de notre univers, donc à ses premiers instants où l'univers tend vers l'infiniment petit, toutes ces forces étaient noyées et liées entre elles. Elles étaient indissociables et avec le Big Bang, elles se sont toutes séparées, ce qui aura finalement donné notre univers. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande unification, là où toutes les forces étaient unies. À ce moment-là, c'est une grande révolution dans le monde des sciences, puisqu'on a réussi à lier 3 des 4 forces, et je le rappelle, le but, l'objectif principal en théorique physique, c'est de lier toutes les forces entre elles. Si on arrive à lier toutes ces forces, alors on comprend notre univers. Mais il y a un gros problème. Avec la théorie du modèle standard, il manque quelque chose de très important. Il manque la force de gravitation. Mais comment c'est possible? Comment les scientifiques ont-ils pu oublier de l'ajouter à la théorie du modèle standard? Et bien en fait, ils l'ont pas oublié. La force de gravitation est incompatible avec la mécanique quantique. Et dans le monde de l'infiniment petit, on ne retrouve aucune force qui s'apparente être la force gravitationnelle. Mais c'est logique, puisque plus les objets sont petits, plus ils sont légers. Alors qu'en relativité générale, plus un objet est massif, plus la force de gravitation est importante. C'est pour cette raison qu'on ne retrouve pas cette force dans le monde de l'infiniment petit. Sauf pour deux cas, les trous noirs et Big Bang. Donc là, vous commencez peut-être à entrevoir le bout du tunnel. On a d'un côté la relativité générale qui décrit très bien la force de gravitation et l'univers à notre échelle, et à l'échelle cosmologique. Et de l'autre côté, on a la mécanique quantique qu'il décrit aussi très bien, et qui admet la théorie du modèle standard, donc l'union des trois forces fondamentales restantes, à l'échelle microscopique. C'est justement là où est le problème. Au moment du Big Bang, la densité d'énergie et de matière était extrêmement élevée, ce qui fait que la gravité était aussi très élevée. Donc quand on pense à gravité, on pense directement à relativité générale qui décrit très bien cette force. Alors on pourrait s'en servir pour décrire les premiers instants de l'univers. Mais il y a un souci, c'est que le début de notre univers concerne une échelle de taille très petite. Et quand il s'agit de ça, faut utiliser la mécanique quantique, puisqu'il y a des effets qu'on peut pas ignorer. Et si on n'utilise pas la mécanique quantique, c'est comme accepter des erreurs dans nos calculs. Mais pareil, si on n'utilise pas la relativité générale, c'est comme accepter d'autres erreurs dans nos calculs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces deux piliers sont incompatibles, on peut pas les utiliser en même temps pour décrire les premiers instants de l'univers. C'est pour cette raison qu'avant les 10^-43 secondes ayant suivi le commencement, nos lois de la physique sont totalement incohérentes et tout devient absurde. L'objectif, ça serait donc d'inclure la relativité générale à la mécanique quantique. En d'autres termes, lier l'interaction gravitationnelle aux autres forces. Ça nous permettrait donc d'avoir une théorie qui peut tout décrire. Le commencement de notre univers, son évolution, et les trous noirs. On aurait donc une théorie qui décrit tous les phénomènes physiques, aussi bien quantiques que gravitationnels. C'est donc une théorie du tout, et c'est pour cette raison qu'on a la théorie des cordes. Voilà donc une des solutions pour unifier ces deux piliers, c'est la théorie des cordes. Vous allez voir, cette théorie paraît un peu bancale et assez complexe à comprendre, mais j'ai essayé de faire au mieux. Sachez d'ailleurs qu'il n'y a aucune preuve expérimentale qui prouve cette théorie. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que cette théorie est une théorie du tout et qu'elle bouleverse notre univers. Puisque c'est encore une théorie spéculative. Il faut d'abord vérifier expérimentalement ce qu'elle prédit, et si un jour on arrive à obtenir les mêmes résultats dans les expériences que ceux de la théorie, alors ce sera un véritable coup de théâtre dans le monde des sciences. Avant d'expliquer cette théorie, il faut comprendre comment elle a émergé, parce que ça a son importance. Au début, on se trouve dans les années 1960. Un physicien italien qu'on appelle Gabriel Veneziano entre dans sa chambre et décide d'étudier l'interaction forte, qu'on appelle la chromodynamique. La chromodynamique, c'est donc la description de l'interaction forte qui, je le rappelle, permet de maintenir le noyau atomique. En fait, à ce moment-là, on savait que cette force existait, mais il fallait trouver comment elle agissait, comment elle s'y prenait pour maintenir le noyau atomique. Puis un beau jour, Veneziano décide d'ouvrir un vieux livre qui avait été écrit par un mathématicien nommé Euler il y a 200 ans. Il cherchait en fait dans ce livre des équations intéressantes qui pouvaient potentiellement l'aider. Et d'un coup, il tombe sur une équation qui retient son attention. Il voit que Euler avait découvert une équation qui semblait décrire l'interaction forte. Euler a fait en fait trouver cette interaction avec son équation avant même qu'on ne découvre son existence réelle. Au fil du temps, plusieurs physiciens ont complété cette équation, et finalement un jeune physicien, Leonard Susskind, commence à s'y intéresser. Il découvrit quelque chose d'anormal. Cette équation décrivait l'interaction avec des particules qui semblaient vibrer. Et il ne s'agissait pas de points, mais de cordes. Et là, ce fut une véritable révolution dans la tête de Susskind. Il venait de faire transparaître sur son tableau la théorie des cordes. Alors donc, qu'est-ce que la théorie des cordes? Comme son nom l'indique, on va parler de cordes. Imaginez-vous en fait, dans le monde de l'infiniment petit, de la mécanique quantique. Ce monde représente 1/1000000000/1 milliardième de notre taille normale. Et là donc, on y retrouve toutes les particules du monde de l'infiniment petit. Au premier abord, on voit un atome. Et quand on plonge à l'intérieur de cet atome, on y trouve des électrons en orbite autour du noyau atomique. Au cœur de ce noyau, on a les protons et les neutrons. Et à l'intérieur même de chacune de ces particules, on retrouve d'autres particules encore plus petites, des quarks. À première vue et dans la physique classique de la mécanique quantique, on perçoit ces quarks comme de simples billes. Mais en réalité, avec la théorie des cordes, ces particules ne sont plus des billes, mais des cordes. En fait, toutes les particules élémentaires sont des cordes. Des cordes vibrantes avec chacun son mode vibratoire. Imaginez-vous dans une pièce composée de plusieurs danseurs. Chaque danseur a son style de danse qui lui est propre. Plus un danseur réalise une danse qui est complexe, plus il a besoin d'énergie pour danser et plus sa masse est élevée. Maintenant, remis dans son contexte, les danseurs sont des cordes. Plus le mode vibratoire de la corde est complexe, plus elle aura besoin d'énergie pour vibrer et plus la masse de la particule qu'elle représente sera élevée. On va tenter d'expliquer ça encore plus simplement. Imaginez une guitare. Lorsque la personne joue, si je lui demande de me jouer un Do, elle va faire vibrer sa corde de sorte à ce qu'un Do soit joué. Par contre, si je lui demande de me jouer un Fa, alors la corde va vibrer d'une autre manière, et le son sera différent. C'est exactement ce qu'il se passe avec les particules. Leur manière de vibrer va faire un son, et là ce ne sera pas un Do par exemple, mais un électron. Par contre, en vibrant d'une autre manière, ça fera un quark. Et donc plus les cordes ont besoin d'énergie pour vibrer, plus elles sont massives. Mais c'est un peu étrange d'imaginer des cordes qui représentent des particules. Sauf que rappelez-vous qu'on est à l'échelle du très petit. Ces cordes, on ne les voit pas. Pour vous donner un ordre d'idée, imaginez qu'un atome est la taille du système solaire en entier. Alors dans ce cas, le brin d'énergie représenté par une corde aurait simplement la taille d'un arbre. C'est pour vous montrer à quel point c'est petit. La taille minimale d'une corde est de 10 puissance moins 35 mètres, qui est la longueur de Planck. Un atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. C'est donc 10 millions de milliards de fois plus grand. Mais malheureusement, au départ, la théorie des cordes n'est pas prise au sérieux. Susskind a tenté de publier son article sur cette théorie, mais on lui a refusé tout simplement parce qu'elle n'était pas du tout intéressante. À cette époque, les physiciens sont persuadés que les particules sont encore des points ou des billes, et pas du tout des cordes. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a théorisé le modèle standard. Vous savez, la théorie qui décrit comment trois des quatre forces étaient unies au moment du Big Bang. Et justement, il manquait une théorie capable d'ajouter la force de gravitation avec les autres forces. C'est dans cette démarche qu'on détermine aussi mathématiquement, donc à l'aide de calculs, la potentielle existence d'une nouvelle particule. Cette particule est très intéressante, puisqu'il s'agit du graviton. En gros, la particule responsable de la force gravitationnelle. La théorie des cordes conçoit mathématiquement que les quatre forces fondamentales peuvent coexister ensemble dans une seule et même théorie. Mais à ce moment-là, la théorie des cordes est toujours incomplète et personne ne veut vraiment s'y intéresser. Seulement, on sait maintenant que la force gravitationnelle peut être liée aux autres forces. Et ça, on l'a découvert grâce aux mathématiques. Si A égale A et que B égale B, alors le graviton existe et c'est exactement ce qu'il y a eu. On a alors une particule qui est attribuée à chaque force. L'électromagnétisme est représenté par le photon, l'interaction forte par le gluon, l'interaction faible par les bosons W et Z, et maintenant la force gravitationnelle par le graviton. Sauf que, il y a un problème. Les mathématiques deviennent de plus en plus complexes et les théoriciens trouvent des résultats qui sont incohérents. Par exemple, pour que la théorie des cordes soit exacte, il faut admettre l'existence d'une nouvelle particule, le tachyon. Bon, jusque-là rien d'anormal, mais cette particule est censée pouvoir aller plus vite que la lumière au repos. Or, rien ne va plus vite que la lumière. Donc là, c'est totalement incohérent. En plus de ça, la théorie des cordes va nécessiter l'existence de 26 dimensions. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre univers a 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Mais pour que cette théorie subsiste, il faut admettre l'existence donc de 22 dimensions supplémentaires. Alors on va d'abord supposer que ces dimensions sont cachées d'une manière inconnue et qu'on ne peut pas les percevoir. Mais donc c'est ça le problème, si on veut admettre que la théorie des cordes est possible, faut admettre ces incohérences-là. Mais justement, on va y revenir tout à l'heure, pour le moment, on va parler des cordes. Comme je vous l'ai dit, la théorie des cordes fait appel donc à des cordes. Et il existe deux types de cordes, les cordes fermées et les cordes ouvertes. Alors c'est pas dur à comprendre, imaginez un élastique, c'est une corde fermée. Et si vous coupez l'élastique, vous avez alors deux extrémités, c'est une corde ouverte. Et les deux types de cordes sont différentes puisqu'ils offrent des caractéristiques différentes. Déjà de par leur forme, puisque la corde fermée forme comme un cercle, alors que la corde ouverte comme une ligne. Les cordes ouvertes sont la plupart du temps associées aux particules de matière, alors que les cordes fermées aux particules de force, comme le graviton. Mais où en est la théorie des cordes à ce moment-là? Il y a toujours ces problèmes avec l'existence du tachyon qui va plus vite que la lumière, ou même le fait qu'il faille 26 dimensions. Eh bien, faut savoir que dans les années 1970, on théorise l'existence d'une supersymétrie. La supersymétrie, ou SUSY, dit que pour chaque particule de matière, qu'on appelle un fermion, il existe une particule de force qui est liée, qu'on appelle un boson, et inversement. Ensemble, ils forment donc des superpartenaires. En gros, imaginons pour le photon qui est responsable de la force électromagnétique, il existe son superpartenaire, une particule de matière qu'on appelle le photino. Pour les quarks, qui sont des particules de matière, il existe des superpartenaires qu'on appelle les squarks. Pour l'instant, on n'a aucune preuve de l'existence de cette supersymétrie, mais mathématiquement elle est possible et elle résout plein de problèmes. En introduisant la supersymétrie à la théorie des cordes, on résout deux gros problèmes. D'abord, étrangement, le tachyon n'a pas de superpartenaire, alors que tous les autres en ont un. Alors ça signifie tout simplement que le tachyon n'existe pas. Et tant mieux parce qu'il était incohérent. En introduisant la supersymétrie, la théorie des cordes devient beaucoup plus stable et ne nécessite plus l'existence de 26 dimensions, mais de maintenant plus que 10. C'est comme ça donc que la théorie des cordes va devenir la théorie des supercordes. Donc pour résumer, on a une théorie qui tient la route. De plus en plus de personnes commencent à s'y intéresser, elle regroupe toutes les forces fondamentales entre elles sur une même équation et elle admet 10 dimensions. Et donc justement, on va parler de ces dimensions. Déjà, faut comprendre que les dimensions supplémentaires, on ne les a pas choisies. Ce sont des calculs mathématiques qui donnent à la théorie des cordes 10 dimensions. Et donc justement, on doit chercher où elles se trouvent et pourquoi elles sont là. Bon, étant donné qu'on va entrer dans un domaine un peu complexe, même pour moi, on va survoler un peu ce principe-là. Nous, on connaît notre univers avec ses 4 dimensions. L'hypothèse serait que dans chacune des 3 dimensions spatiales qu'on connaît, il existe 2 dimensions supplémentaires pour chacune d'entre elles, qui sont cachés. En gros, pour expliquer l'image très grossièrement, imaginez la dimension de la largeur dans l'univers. Imaginez maintenant que cette dimension est comme un immense câble. Et bien si on zoome énormément sur ce câble qui représente la dimension de la largeur, on va voir deux autres petits câbles qui seront enroulés autour de cette dimension principale. On supposerait donc que les dimensions supplémentaires s'enrouleraient sur elles-mêmes. Maintenant, on peut faire pareil pour la dimension de la hauteur et de la profondeur. On obtient ainsi 9 dimensions à laquelle on rajoute la dimension de temps. On a donc 10 dimensions. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quoi elles servent? Eh bien, on sait que ces dimensions seraient responsables du mode vibratoire de chaque corde. En fait, les dimensions sont recroquevillées sur elles-mêmes d'une certaine manière. Et les cordes vibrent de cette manière puisque les dimensions sont recroquevillées de cette manière-là. Si les dimensions étaient bouclées d'une autre manière, les particules auraient vibré tout autrement. C'est pour ça qu'on cherche encore maintenant comment ces dimensions sont enroulées sur elles-mêmes. Mais le problème, c'est qu'il existe une infinité de modèles possibles, et donc peut-être aussi une infinité d'univers possibles, avec chaque univers son modèle. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas super simple à comprendre, c'est pour ça qu'on va pas s'y aventurer plus que ça. Retenez seulement qu'il existe 10 dimensions dans la théorie des cordes. Enfin, pour le moment. Parce que ça peut peut-être changer après. Avec le temps, et au vu du nombre de physiciens et de mathématiciens qui se sont penchés sur le sujet, on est parvenu à trouver 5 théories des cordes légèrement différentes qui sont toutes valables. Entre 1981 et 1994, on se retrouve donc avec 5 théories des cordes. La première, c'est celle de type 1. Elle possède des cordes fermées et aussi des cordes ouvertes. C'est la première à avoir été élaborée. La deuxième, c'est la théorie des cordes de type 2A. Elle évolue aussi dans 10 dimensions comme la première, sauf qu'elle ne possède que des cordes fermées. La troisième, c'est la théorie de type 2B. C'est exactement comme la type 2A, sauf qu'elle a des symétries et des caractéristiques légèrement différentes. La quatrième, c'est la théorie des cordes de type HO. Elle a été proposée en 1985 et elle ne possède aussi que des cordes fermées. Et la cinquième, c'est la type HE, qui est équivalente à la théorie de type HO, mais avec quelques différences. Bon, en gros, ces théories veulent toutes dire la même chose. C'est juste qu'il y a des différences entre le mode vibratoire de certaines particules ou des symétries entre les particules. Mais en soi, toutes ces théories veulent dire la même chose. C'est comme s'il y avait 5 manières différentes de présenter la théorie des cordes. C'est comme ça qu'à partir de là, va en découler la théorie M. En 1995, le physicien Edward Witten dit à tout le monde qu'il a trouvé une solution à la théorie des cordes. Une solution qui va mettre tout le monde d'accord. Et pour le coup, il pèse ses mots puisqu'il va proposer sa théorie, et de là, un nouvel élan est né. Edward Witten a trouvé un moyen d'unifier les 5 théories des cordes existantes pour n'en former qu'une seule, la théorie M. Alors sur quoi repose cette théorie? C'est toujours la même chose, à l'échelle quantique, les particules sont représentées par des cordes. Plus elles vibrent et nécessitent de l'énergie, plus elles sont massives. On retrouve toujours la supersymétrie, donc des particules de matière qui sont liées avec d'autres particules hypothétiques de force, et vice versa. Mais il va y avoir quand même des différences. Déjà, il va plus y avoir 10 dimensions, mais là, 11 dimensions. Ce sont les mathématiques qui l'imposent, si on veut que la théorie marche, il faut maintenant 11 dimensions. Cette théorie va aussi utiliser un système de Brahn. Pour faire simple, imaginez une feuille de papier. Vous serez d'accord avec moi, cette feuille a 2 dimensions, longueur et largeur. Alors donc, c'est une membrane. Selon la théorie M, on pourrait imaginer que tout notre univers repose sur une seule membrane, qu'on va plutôt appeler Brahn. Sauf que celle-ci n'est pas à 2 dimensions, mais à 3 dimensions spatiales et une de temps. Ce qui en fait notre espace-temps. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres dimensions restantes? Et bien en fait, les corps de la théorie M, donc les particules, sont parfois ouvertes et parfois fermées. Les cordes ouvertes, elles, ont 2 extrémités, donc sont liées à notre Brahn, donc à notre espace-temps. Mais par contre, les cordes fermées, elles, ne sont pas du tout reliées à notre Brahn. Le graviton qu'on admet dans cette théorie pourrait justement avoir une corde fermée. Et donc comme ça, on peut imaginer que le graviton peut voyager dans l'espace de l'au-delà. Alors pourquoi je parle de l'au-delà ? Eh bien parce que la Brahn dans laquelle nous sommes, donc notre univers, pourrait très bien faire partie d'un espace multidimensionnel bien plus grand, un continuum bien plus vaste. On appelle cet espace l'espace de bulk. C'est un espace qui serait constitué de plusieurs Brahn, donc possiblement de plusieurs espaces-temps. C'est comme ça qu'on admet donc la théorie du multivers. Imaginez-vous une brioche. Chaque tranche que vous coupez de cette brioche est une Brahn, donc un univers. Mais la brioche en entière forme cet espace multidimensionnel. Les gravitons pourraient donc voyager dans cet espace multidimensionnel puisqu'ils ne sont rattachés à aucune Brahn. C'est ce qui pourrait expliquer notre complexité à lier la force de gravitation avec la mécanique quantique. Bref, on se retrouve donc dans les années 1990 avec cette théorie, la théorie des supercordes, et plus particulièrement la théorie M. À cette époque, on est en très bonne voie de trouver la théorie du tout. C'est la théorie qui décrirait tout notre univers en une seule équation. C'est grâce à elle notamment qu'on pourrait comprendre même les trous noirs. Parce que oui, les trous noirs sont des objets indescriptibles. Il s'agit de trous dans l'espace-temps. Des zones où la densité de matière est si dense, en un point si petit, que la gravité est extrêmement forte. Tellement forte même, qu'elle ne laisse même pas la lumière s'en échapper. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal à décrire les trous noirs. On ne sait pas ce qu'ils cachent, ni vers où ils mènent, et la théorie des cordes pourrait bien nous proposer des solutions. On pourrait comprendre ce que devient réellement la matière une fois qu'elle entre dans un trou noir, et où elle va. On pourrait d'ailleurs émettre l'hypothèse des trous de ver en théorie des cordes. Par exemple, un trou noir pourrait être un trou de ver qui est connecté avec une autre Brahn grâce à une corde. En gros, en entrant dans un trou noir, vous passeriez par une corde qui vous mènerait vers une autre Brahn, donc un autre univers. Ou alors, peut-être que la corde est reliée avec un autre endroit de l'univers. Cette corde pourrait agir comme un tunnel entre deux endroits. Mais en réalité, pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, ils ne sont possibles que mathématiquement. Mais la théorie des cordes pourrait nous permettre de comprendre pas seulement les trous noirs, mais aussi tout notre univers et le Big Bang. Si cette théorie est admise, alors la compréhension qu'on aura de notre univers s'en trouvera bouleversée. On pourra expliquer pourquoi telle particule a telle masse. La réponse serait que sa corde utilise une quantité d'énergie bien définie pour vibrer. Et je vous l'ai dit, plus une énergie utilisée est conséquente, plus la masse est élevée. C'est logique et cohérent avec l'équation E égale mc², qui est très bien connue. On répondrait donc à beaucoup de questions, comme par exemple pourquoi notre univers est ainsi et pas autrement. On saurait comment les forces étaient unifiées au départ, à l'instant zéro, et on pourrait même supposer la naissance de l'univers. Puisque pour rappel, on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché le Big Bang. L'hypothèse en réponse à cette question serait que deux Brahn, donc deux espaces quadridimensionnels différents, seraient entrés en collision. L'énergie apportée pendant la collision aurait provoqué le Big Bang et créé une nouvelle Brahn, un nouvel espace-temps et un autre univers qui est le nôtre. Mais voilà, cette théorie qui a beau être super élégante, on n'a malheureusement encore aujourd'hui aucune preuve de son existence. On sait qu'elle est viable, mais que par des formules mathématiques. Et les mathématiques ne font pas tout. En fait, ça veut pas dire que la théorie existe physiquement. Alors c'est pour ça que les scientifiques se démènent depuis de nombreuses années pour faire des expériences. Déjà, il faudrait pouvoir détecter ces fameuses dimensions supplémentaires. Pour ça, on utilise des accélérateurs de particules comme le LHC en Suisse. Parmi les résultats qu'on espère obtenir pendant les expériences sur la théorie des cordes, ce serait de découvrir le graviton. Parce que jusqu'à l'heure, ce ne sont que des particules hypothétiques. En faisant entrer en collision des particules, les scientifiques espèrent identifier des gravitons pendant la collision. On pourrait même espérer identifier des traces de particules qui sont admises par la supersymétrie. Par exemple, si on découvre des squarks qui sont les superpartenaires des quarks, on aura fait un grand pas en avant. Mais malheureusement jusqu'à l'heure, aucune expérience n'a porté ses fruits. C'est quoi alors le problème pour le moment? Eh bien tout simplement, notre technologie. Pour faire les expériences, on a besoin de quantités d'énergie qui sont énormissimes. Et faut pas oublier qu'on essaie d'identifier des particules qui sont extrêmement petites. On est au stade de l'échelle de Planck, donc la plus petite longueur possible qui a un sens physique. On est encore assez loin d'avoir la technologie nécessaire nous permettant d'expérimenter pleinement la théorie des cordes et espérer avoir des résultats. La question aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on en est dans nos recherches et qu'est-ce qu'en pensent les scientifiques à l'heure actuelle? Depuis très longtemps, on fait des recherches sur cette théorie, mais la plupart des prédictions qui sont faites ne sont pas encore vérifiables avec notre technologie. La théorie est trop en avance sur notre temps. Les chercheurs se sont même demandé s'ils ne se trouvaient pas dans un cul-de-sac coincé par la technologie. La théorie des cordes est clairement une beauté mathématique. Elle décrit parfaitement notre univers et prédit des quantités mathématiques infinies. Beaucoup de scientifiques la trouvent irréaliste et critiquent ceux qui continuent de s'acharner dessus. Ils trouvent que ça ne sert à rien puisque cette théorie décrit ce qui se trouve au-delà de la quatrième dimension seulement pour trouver une explication à l'unification des quatre forces du début de notre univers. Alors oui, si la théorie des cordes est prouvée, ce serait une véritable révolution dans le monde des sciences. Mais à l'heure actuelle, on peut se demander si cette théorie n'est pas trop irréaliste. Les mathématiques peuvent très bien décrire des choses qui dépassent l'entendement et la réalité physique des choses. Les scientifiques qui travaillent sur cette théorie et qui y croient aiment répondre que le futur prouvera que cette théorie est vraie. Mais est-ce que nous ne devrions pas au contraire chercher ailleurs? Par exemple, dans la théorie de la gravité quantique à boucle. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo plus tard. Pour mon avis personnel, j'aime beaucoup cette théorie, mais je la trouve aussi surréaliste en certains points. En fait, j'ai un peu du mal à imaginer notre univers dans un espace multidimensionnel, donc je me dis juste que j'attends de voir. J'attends de voir ce que le futur nous dira quand on aura la technologie nécessaire pour expérimenter la théorie des cordes. Et si vous voulez comprendre le début de notre univers, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez des questions, venez sur Insta. C'était Zebrolos, bye.